Amen. C'est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Hallelujah. Ça décape de louer le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. La louange est importante. Vous ne pouvez pas arriver après la louange. Vous avez besoin d'être dans la louange. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous êtes prêts pour le succès cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réussir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apprendre les lois du succès ici? Hallelujah. Vous savez, je ne sais pas ce qui m'est arrivé pendant cet été, mais quelque chose est venu sur moi et m'a dit, m'a conduit vraiment à pousser et à travailler et à enseigner sur le succès. Parce que Dieu veut que son peuple ait du succès. Son peuple doit maîtriser les lois du succès. Nous devons être les meilleurs. Amen. Nous devons être les meilleurs. Vous savez, je parlais avec un frère cet après-midi de différentes choses au niveau du travail. Et il me disait, pasteur, nous devons être les meilleurs. J'ai dit, mon ami, oui, nous devons être les meilleurs. Vous n'avez pas d'autre objectif, ni d'autre devoir envers vous-même et envers Dieu que d'être les meilleurs. Amen. Vous devez être les meilleurs pour votre famille, les meilleurs pour votre église, les meilleurs pour ce monde, les meilleurs dans votre travail, les meilleurs dans votre couple, le meilleur. Vous devez être le meilleur. Ne visez pas plus bas que le meilleur. Alléluia. Dieu veut que vous soyez les meilleurs. Vous savez, nous avons besoin de briller pour Dieu. Et l'excellence, ça brille, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on a besoin que les gens qui travaillent ici dans la maison de Dieu soient excellents. S'ils ne veulent pas être excellents, qu'ils aillent travailler pour quelqu'un d'autre. Mais si vous travaillez ici dans la maison de Dieu, soyez excellents. Amen. Faites de votre mieux, faites de votre meilleur, donnez votre meilleur. Amen. Ça, c'est extrêmement important. Bien. Donc, ce matin, nous avons enseigné sur le succès. Et la semaine, pas cette semaine, mais la semaine d'avant, le dimanche après-midi, nous avions enseigné sur le succès aussi et la réussite et certaines choses qui doivent être dans notre vie. Et je vous encourage à reprendre cet enseignement aussi qui était important. Et nous continuons dans cette même lignée cet après-midi. Et j'ai plusieurs points à vous partager et j'espère que je vais aller jusqu'au bout. Premièrement, j'aimerais vous partager trois lois qui dirigent et orientent votre vie. Trois lois qui dirigent et orientent votre vie dans le succès ou dans l'échec. Après, c'est vous qui choisissez. Que vous le réalisiez ou non, il y a des choses qui orientent notre vie, n'est-ce pas? Et la première loi, la première règle, c'est que là où vous fixez vos yeux, c'est là où vous allez. Hé, hé, hé. Là où vous fixez vos yeux, c'est là où vous allez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder quelque part et d'avancer dans une autre direction. Ce n'est pas possible. Et si vous le faites, vous allez vous prendre un poteau. Vous allez vous prendre un mur. Mais lorsque vous voulez aller quelque part, vous placez vos yeux sur là où vous voulez. Les yeux de Jésus-Christ étaient à la croix. Tout le temps où il était sur terre, il marchait sur terre, ses yeux étaient dirigés sur la croix. Il y avait une chose sur laquelle il savait qu'il devait terminer, c'était son but, c'était son objectif, c'était de monter à la croix. Maintenant la question c'est, vos yeux sont rivés vers quoi? Vos yeux fixent quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous regardez? Parce que ce que vous regardez, c'est ce que vous aurez. Donc ce que vous regardez, c'est extrêmement important. Regardez, mes amis, ce que vous rêvez. Je ne sais pas ce à quoi vous rêvez, je ne sais pas ce que vous voulez dans votre vie, mais ce que vous voulez, il faudra le regarder. C'est-à-dire, il va falloir le fixer, il va falloir le vouloir, n'est-ce pas? Il va falloir fixer vos yeux et votre attention dessus. Hallelujah. Parce que regarder, c'est se projeter. Lorsque vous regardez dans une direction, vous vous projetez dans une direction. C'est pourquoi il est très important de faire attention à ce que l'on regarde. Okay? Ce que vous regardez, c'est ce que vous aurez au final. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à regarder autre chose que ce qu'ils devraient regarder. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de... Vous savez, une des ruses par lesquelles le diable vous trompe et vous vole, c'est par la distraction. Le diable amène la distraction dans votre vie. Il amène toute espèce de choses de sorte que vous regardez dans différentes directions. Si vous voulez voir des gens qui ont du succès, ce sont des gens qui sont restés concentrés à faire la même chose toute leur vie. Ce sont les gens qui ont eu véritablement du succès. Ce sont les gens qui ont véritablement réussi. Si vous voyez un sportif de haut niveau, il n'est pas en train de faire du tennis un jour, du basket le lendemain et de la course le lendemain. Il fait ce en quoi il est spécialisé dans sa vie, dans sa capacité, et il le fait tous les jours, et il le fait tous les jours, puis un jour il perce et il a du succès. Mais les gens qui s'éparpillent et qui donnent un peu dans ce côté, et un peu de ce côté-là, et un peu de ce côté-là, ils ne réussissent pas. Amen. Mes amis, Dieu doit être votre priorité. Si vous voulez être un chrétien excellent, alors donnez votre priorité à Dieu. Fixez vos yeux sur Dieu. Fixez vos yeux sur la parole de Dieu. Fixez vos yeux sur les objectifs de Dieu. Entrez dans le plan de Dieu. Entrez dans la vision de Dieu. Vous savez que ce ministère a une vision, n'est-ce pas? Et vous devez entrer dans la vision de ce ministère et vous devez marcher dans cette vision pour avoir après la récompense et la récolte que Dieu a prévue pour votre vie. Amen. Donc ce que vous regardez, c'est ce que vous aurez. Ce que vous regardez, c'est en fait ce vers quoi vous tendez. N'est-ce pas? Ce que vous regardez, c'est ce vers quoi vous tendez. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de regarder aux autres. C'est du temps perdu. Ce que font les autres, là où vont les autres, ce qui se passe dans les autres familles, dans les autres maisons, c'est tout du temps perdu. Ne vous fixez pas sur ce que les autres font. Regardez ce que là où vous êtes et là où vous voulez aller. Et fixez-vous sur ça. Concentrez-vous sur une chose. Ne vous éparpillez pas sur plusieurs choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi cet après-midi? Parce que ce que vous regardez, c'est en fait véritablement ce à quoi vous aspirez. Alors la question pour vous cet après-midi, c'est qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez à quoi au juste? En d'autres termes, vous allez dans quelle direction? Vous savez, il y a des choses que je veux tellement, je suis absolument tendue vers un seul but. Toute ma vie et mon temps et mon énergie et mes plaisirs et mes loisirs tendent vers une seule direction. Tant et si bien que j'en rêve même la nuit. Et je sais que ce ne sont pas des rêves qui viennent de Dieu. Ce sont des rêves qui viennent de moi, ce sont mes rêves, n'est-ce pas? Qui se ressortent même la nuit. Pourquoi? Parce que tout mon être, tout mon organisme, tout ce qui est en moi est dirigé dans une seule direction. N'est-ce pas? Mais vous savez ce que cela produit, cela? Cela engendre le succès. Cela engendre la réussite. Alléluia. Regardez avec moi dans Genèse 13. Genèse 13, au verset 14. Nous voyons Abraham qui s'est éparpillé. Abraham a pris son neveu Lot avec lui. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il ne lui a jamais dit de prendre son neveu avec lui. Il lui a dit, va, sors de ton pays, sors de ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Et qu'est-ce que Lot a fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris son neveu avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction de Dieu était sur Abraham, et donc la bénédiction de Dieu est venue sur Lot. Et donc, l'un et l'autre ont grandi, ont prospéré, au point où, finalement, ils sont arrivés à un moment où Lot avait tellement aussi, il avait tellement de bergers, il avait tellement de brebis, il avait tellement de troupeaux, que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se disputaient. Et tous les deux remplissaient la contrée. Et il n'y avait pas assez de place pour les deux. Donc, Abraham était un homme extrêmement intelligent. Abraham était un homme conciliant. Il préférait prendre la moindre part plutôt que d'entrer dans la dispute. Et ça, c'est de l'intelligence. Et donc, il a dit à son neveu, regarde la plaine, regarde ce qui est en face de nous. Et maintenant, choisis de quel côté tu veux aller. Si tu vas de ce côté, moi, j'irai de ce côté-là. Si tu choisis ces belles plaines là-bas, moi j'irai dans ces directions désertiques. Et qu'est-ce que Lot a fait? Lot a choisi les plaines, et bien sûr, de Sodome et de Gomorre. Et donc, suite à cela, Abraham a pris ses troupeaux et il est parti dans un endroit beaucoup plus difficile, beaucoup plus désertique, mais il avait la bénédiction de Dieu sur lui. Et lorsqu'il est parti, et donc il a cessé de s'éparpiller, n'est-ce pas? Dieu lui a parlé au verset 14, et il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il lui dit maintenant, ok, lève les yeux et regarde maintenant dans la direction. Regarde dans la bonne direction, parce que ce que tu vois, je vais te le donner. De la même façon, ce que vous voyez, c'est ce que vous aurez. Alléluia. Mettez les bonnes choses devant vos yeux. Ok, donc la première loi, c'est là où vous fixez vos yeux, c'est là où vous irez. Ok? Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce à quoi vous pensez. Faites attention à ce qui vous motive et ce que vous désirez. Ok? Gardez les motifs et les mobiles de Dieu dans votre vie. Deuxièmement, ne regarde qu'à ce que tu veux pour ta vie. Ne regarde qu'à ce que tu veux pour ton avenir. Et tournez avec moi dans le livre de Matthieu. Regardez au Matthieu 6, verset 22. Il est écrit que l'œil est la lampe du corps. Donc, vous voyez, dans la Bible, l'œil a énormément d'importance. Ça veut dire que l'œil, ce que tu vois, est capable d'éclairer tout ton corps. L'œil est la lampe du corps. Est-ce que vous comprenez par ce que je dis lorsque je dis ce que tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu vois? Ça veut dire ce que tu rêves. Ça veut dire ce que tu penses. Ça veut dire ce de quoi tu te remplis. Ce sur quoi tu médites. Là où tu portes ton attention. Ce à quoi tu donnes ton temps. N'est-ce pas? Donc l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Est-ce que vous réalisez comme c'est puissant ça? Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres? Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ce verset, qui semble être différent de l'œil, va pourtant exactement dans la suite de ce qui est enseigné sur l'œil. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'œil est la lampe de ton corps. Donc ce que tu regardes, c'est ce qui va éclairer ton corps. Ok? Si ton œil est en bon état, en d'autres termes, si ton regard il est bon, si ta vision elle est bonne, si tu regardes dans la bonne direction, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est tout ton corps qui sera éclairé. Mais si ton œil il est en mauvais état, en d'autres termes, si ta vision elle est pas bonne, rappelez-vous ce que j'ai dit ce matin. J'ai parlé de la structure intérieure, n'est-ce pas? J'ai dit que la réussite, c'est quelque chose d'intérieur. Ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Le pays peut être dans un chaos pas possible et vous réussissez. Et vous avez la victoire et vous montez. Parce que la réussite n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et donc ce verset corrobore et parle de la même chose. Il dit si ton œil il est en bon état, n'est-ce pas? Eh bien tout ton corps va être éclairé. Mais si ton œil il est en mauvais état, en d'autres termes, si ta structure elle n'est pas bonne, si ta structure elle est bonne, tu vas prospérer. Mais si ta structure interne, elle est pas bonne, si elle est négative, si elle est dans le doute, si elle vit dans la peur, si elle est motivée par ces choses-là, eh bien, c'est tout à l'intérieur de toi qui va être en mauvais état. Ça ne va pas atteindre son but. Vous n'allez pas atteindre votre but. N'est-ce pas? Il est écrit donc verset 23, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, donc ça veut dire s'il n'y a pas de lumière en toi, si c'est que les ténèbres, alors grandes seront tes ténèbres. » Et il est écrit, « Attention, nul ne peut servir de maître. » En d'autres termes, mes amis, vous ne pouvez pas avoir un œil qui regarde à droite et un œil qui regarde à gauche. Enfin, il y en a certains qui ont ça. Mais vous ne pouvez pas voir bien. Ok? Vous ne pouvez pas servir de maître. En d'autres termes, vous ne pouvez pas courir deux courses. Vous ne pouvez pas aller dans deux directions. Vous ne pouvez pas penser servir le monde et vivre comme le monde et espérer être aussi le meilleur des chrétiens et vivre pour Dieu. Et vous êtes, lorsque Jésus reviendra, il va vous prendre dans la gloire comme son épouse glorieuse. La question est, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi la priorité chez vous? Au bout d'un moment, il faut déterminer ses priorités. Qu'est-ce que je veux être? Moi, je vais vous dire ce qu'un chrétien doit vouloir être. Ce qu'un chrétien doit vouloir être, il doit être excellent pour Christ. Un chrétien, il doit courir sa course de Christ. Comme Paul a couru sa course en disant, je ne regarde pas en arrière et je ne me porte pas sur les choses du passé. Par contre, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voilà ce qu'un chrétien doit vouloir faire. Il doit vouloir être excellent pour son Dieu. Sachant que lorsqu'on est excellent pour notre Dieu, Dieu nous couvre de toutes ses bénédictions. Alléluia. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, qu'est-ce qui va vous accompagner lorsque vous marchez avec Dieu? Qu'est-ce que mon mari a dit? Retournez-vous. Retournez-vous, retournez-vous, retournez-vous. Regardez derrière vous. Qu'est-ce que vous voyez? Le bonheur et la grâce. Ok, sauf que le bonheur et la grâce, il est réservé pour ceux qui marchent avec Dieu. Un croyant doit mettre ses priorités en ordre. Mes amis, mettez vos priorités en ordre. J'aime le mois de septembre, je l'ai déjà dit, j'aime le mois de septembre et j'aime le mois de janvier. Pourquoi? Parce que ce sont des bons mois dans l'année dans lesquels on reprend les choses et on remet les priorités en ordre. Ce sont mes deux mois préférés. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez au mois de septembre et si vous m'écoutez au mois de janvier, je dis toujours la même chose. Remettez vos priorités en ordre. C'est facile de se faire distraire. C'est facile de partir à droite et à gauche et dans toute espèce de choses. Dieu a besoin de vous, n'est-ce pas? Vous êtes un croyant, vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous avez une propriété là-bas, là-haut dans le ciel, qui vous attend avec votre nom dessus. Vous devez mettre vos priorités en ordre. Qui est votre maître? Qui est votre Dieu? Qui est votre maître? La question est, qui est votre maître? Est-ce que vous êtes votre maître? Alors si vous êtes votre propre maître, faites ce que vous voulez. Vous êtes votre propre maître. Mais vous ne pouvez pas réclamer les bénédictions de Dieu aussi qui vont avec. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas réclamer les choses d'en haut. Si vous êtes votre maître. Si votre maître c'est le monde, alors suivez le monde. D'ailleurs, Dieu a dit très clairement dans Apocalypse, vous ne pouvez pas être tiède. Vous devez choisir. Soit vous êtes froid, soit vous êtes bouillant. Soit vous êtes froid pour Dieu et bouillant pour le monde. Soit vous êtes bouillant pour Dieu ou froid pour le monde. Vous devez choisir un des camps. Vous savez, on parle souvent de l'esprit manichéen. C'est quoi l'esprit manichéen? Souvent, on traite les Américains de manichéens. C'est assez connu en France et avec l'esprit français. Mais qu'est-ce que c'est l'esprit manichéen? L'esprit manichéen, c'est l'esprit noir ou blanc. Mais vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de gris. Dans la Bible, il n'y a pas de position à demi, à moitié. Vous êtes pour Dieu ou vous êtes dans le monde. Jésus a dit une chose. Et je n'ai pas pris la référence parce que je n'ai pas pensé à dire cela. Mais Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Réfléchissez à cette parole. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Si vous réfléchissez à cette parole, si quelqu'un du monde réfléchissait à cette parole, dirait, oh mon Dieu, quel esprit manichéen. Tout blanc, tout noir. Tout bon, tout bien. Tout mal. C'est très bien ou c'est très mal. Néanmoins, c'est l'esprit de l'évangile. Parce que il n'y a pas de demi-semblant et de demi-teinte dans les choses spirituelles. C'est soit Dieu, soit le diable. Vous dites, oh, mais moi, je fais de mal à personne. Oh, mais moi, je vis ma vie et je fais de mal à personne. Et sûrement, plus tard, j'irai au ciel et puis on verra bien là-haut comment ça va se passer. Mes amis, soit vous êtes avec Dieu, soit Jésus est votre Seigneur et votre sauveur, et vous en avez fait de lui votre maître, et que vous le suivez et vous le servez, soit vous servez le diable. C'est une parole dure à entendre. Mais vous savez, Jésus a dit beaucoup de paroles dures, et beaucoup de ces paroles étaient tellement dures. Maintenant, dure ne veut pas dire fausse. Elles étaient dures, mais elles étaient vraies. Et puis après, au bout d'un moment, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux entendre? Je veux entendre que des paroles qui me plaisent et qui sont fausses? Ou je veux bien faire face à des paroles qui sont dures, mais qui sont vraies? Jésus parlait la vérité, et la vérité déplaisait. Parfois, la vérité, elle va dans votre sens, et vous êtes content. Parfois, elle ne va pas dans votre sens, et vous n'êtes pas content. Néanmoins, nous devrions tous vouloir la vérité. Jésus a dit cette parole incroyable, « Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, il divise. » Pensez, il y a des gens qui pensent peut-être, moi je ne fais pas de mal, je fais de mal à personne, néanmoins, si vous n'êtes pas avec Christ, vous n'êtes pas avec Christ, vous êtes avec le diable. Il n'y a pas de demi-teinte. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Ah, quelle parole! Quelle parole! Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, il divise. Ah. Quand on réalise qui est le diable, quand on s'arrête quelques instants et qu'on pense qui est le diable, on réalise que ce que Jésus disait n'est pas une vue de l'esprit de quelque part. C'est une réalité. Le diable n'est pas votre ami, il n'est pas votre copain, il n'est pas gentil, il ne va pas vous faire du bien et il ne va pas faire de bien à quiconque le suit. Le diable est noir. Et tout ce qui vient du diable, c'est noir. Et les choses de Dieu, c'est blanc. Toutes les choses qui viennent de Dieu, c'est la lumière et c'est la vie. Et toutes les choses qui viennent du diable, c'est les ténèbres et c'est le mal. Vous savez, j'ai des origines bretonnes. J'ai mon père qui est un 100% breton. Donc ça fait de moi au moins une 50% bretonne. Il paraît que les bretons sont têtus. C'est bien d'être têtu, pour la bonne chose. Et donc, j'ai beaucoup lu cet été. J'ai beaucoup aimé cet été parce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour lire. Et j'ai lu plein de choses. Bien sûr, j'ai pris plus de temps que d'ordinaire pour lire ma Bible. Et j'ai lu sur l'Église persécutée. Et j'ai lu sur beaucoup de choses. Et j'ai lu aussi pas mal de choses sur les coutumes et l'histoire donc, de la Bretagne. Et je suis tombée sur un livre qui n'est pas du tout un livre chrétien, mais qui est un livre sur les us et cultures, bien sûr, et les coutumes. Et donc, il parlait de la sorcellerie de la Bretagne. Et j'avais beaucoup entendu parler de la sorcellerie de la Bretagne, mais je n'avais aucune idée de ce qu'est la Bretagne. Parce que lorsque vous allez en Bretagne, probablement beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà allés en Bretagne, vous voyez un paysage de carte postale, n'est-ce pas ? Vous voyez des vagues magnifiques et une plage magnifique. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il peut y avoir derrière. Maintenant, la Bretagne a été un pays extrêmement pauvre. Enfin, un pays, une région extrêmement pauvre, où il y a eu vraiment une ville. Les gens ont vécu une vie d'une dureté incroyable. Incroyable. Et il y avait un tel niveau de sorcellerie en Bretagne. Et une des choses qui se passait, c'est qu'en Bretagne, par exemple, pour pouvoir faire partie de l'Assemblée des sorciers, il fallait procéder à certaines cérémonies, il fallait avoir lieu à certaines cérémonies évidemment secrètes, qui étaient par exemple de manger des enfants rôtis ou bouillis. Il célébrait les sabbats. Et pour pouvoir célébrer le sabbat donc de toutes ces personnes évidemment qui sont dans la sorcellerie et dans l'occulte, eh bien ils se mettaient sur les lèvres une poudre qui était devenue une espèce de poudre noire, mais qui était à la base le cœur d'enfant mort écrasé. J'arrête, je vous donne que deux exemples. Pourquoi je vous dis ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour nous de dire ça ? Non, il n'y a rien pour nous d'intéressant de dire cela, parce que nous appartenons à la lumière. Mais nous comprenons mieux les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi divise. » Vous comprenez ? On comprend mieux. Le diable n'est pas un gentil diable. Il n'est pas un bon diable. Le diable ne fera pas de cadeau à personne. Il faut marcher avec Dieu. Si vous ne marchez pas avec Dieu, alors vous vivez votre vie comme le monde ou comme le diable, mais c'est vous qui choisissez. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on doit remettre nos priorités en ordre. Il y a une chose qui est importante, le royaume de Dieu est important. Nous devons avoir du succès pour le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher le succès simplement pour prêcher le succès. Vous comprenez ? Dieu veut que nous ayons du succès, parce que lorsque nous avons du succès, Dieu a du succès. Et lorsque nous avons du succès, nous pouvons aller plus loin, n'est-ce pas ? Et lorsque nous avons du succès, cela honore Dieu. N'est-ce pas ? Nous ne voulons pas simplement avoir du succès pour être comme les gens du monde, parce que qu'est-ce que le monde a à nous offrir ? Le monde n'a rien, le monde n'a pas de solution. Le monde ne connaît même pas la réalité de l'enfer et du diable. Le monde ne connaît aucune de ces choses. Nous devons resserrer nos priorités et savoir que Dieu est la priorité. Pourquoi ? Parce que ce que tu vois, c'est là où tu vas. Si ton œil n'est pas en bon état, tu ne vas pas aller dans la bonne direction. Donc, tu dois mettre en ordre tes priorités. Qui que tu sois, enfant de Dieu, mets en ordre tes priorités. Place le Seigneur au top liste de toutes tes priorités. Parce que là où tu regardes, c'est là où tu vas aller. Hallelujah. Donc, ne regarde qu'à ce que tu veux. Et c'est mon point numéro 2. Pour ta vie et pour ton avenir. Regardez dans Matthieu 5, au verset 29. Il est écrit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute. » Je vais attendre que vous tourniez. Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a déjà arraché son œil? Mais vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, alors. Il y a beaucoup de versets dans la Bible que nous devons comprendre par l'Esprit, bien sûr, et par la révélation de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés par l'esprit religieux et qui ne comprennent pas que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. N'est-ce pas? La parole de Dieu ne vient pas pour vous lier, la parole de Dieu, elle vient pour vous libérer. Qu'est-ce que dit la Bible? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Qu'est-ce qu'il est dit? Si ton œil, il n'est pas bon, si ton œil, il ne regarde pas dans la direction, dans la bonne direction, vaut mieux pour toi que tu arraches ton œil plutôt que tu ailles dans les ténèbres. En d'autres termes, si ta vision, elle n'est pas bonne, si ta direction, elle n'est pas bonne, alors arrache ta direction, arrache ce qui est dans ton cœur, arrache ce qui est déplaît à Dieu. Parce que vaut mieux pour toi être arraché de certaines choses, arraché de certains désirs, arraché de certaines directions, plutôt que tu termines dans la géhenne. Tu es avec moi cet après-midi? Pour toi que tu souffres un peu, mais que tu ailles dans la vie éternelle, plutôt que tu prennes soin de toi et que tu te laisses aller dans telle direction ou telle direction et que tu sois perdu. Amen. Donc fais attention à ce que tu regardes. Troisièmement, vous avancerez toujours en direction de l'image dominante qui est dans votre pensée ou dans votre cœur. Vous avancerez toujours en direction de l'image dominante qui est dans votre pensée ou dans votre cœur. Si vous pensez échec, vous allez produire l'échec. C'est ce que je vous ai enseigné ce matin. N'est-ce pas? Si vous pensez réussite, vous allez produire la réussite. Si vous pensez possibilité et opportunité, vous allez produire et engendrer des possibilités et des opportunités. Vous avancerez toujours en direction de la pensée, le désir, l'image dominante qui est à l'intérieur de vous. C'est pourquoi vous devez avoir la foi en Dieu et la foi de Dieu. N'oubliez pas que la foi, elle est positive. Les gens qui ont la foi doivent être les gens les plus positifs sur terre. Amen. C'est pas possible de dire j'ai la foi et d'être toujours vaincu. C'est pas possible de dire j'ai la foi et je suis ballotté et à tout vent et malmené par le diable. C'est pas possible ça. La foi, elle est positive. Amen. Il y a deux types de foi. Il y a la foi positive, elle est basée sur Dieu et sur la parole de Dieu. Et il y a la foi négative, elle est basée sur la peur et la crainte. Le diable est l'auteur de la foi négative. Vous savez que la peur, c'est vraiment de la foi. Les gens tremblent devant la grippe A, ils ont déjà la foi qu'ils vont avoir la grippe A. Vous comprenez? C'est la foi négative. Elle vient du diable, elle vient du monde. Lutter contre cette foi, ce n'est pas la foi de Dieu. Amen. Vous devez avoir la foi de Dieu en vous, parce que la foi de Dieu en vous, elle est positive. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle dit, cette foi en vous? Elle dit, tu vas aller bien, tu vas être en bonne santé, tu vas vivre longtemps, tu vas avoir une bonne famille unie, tes enfants vont grandir dans le Seigneur, tu vas être prospère, tu vas changer d'appartement, tu vas avoir une nouvelle maison, tu vas bénir l'Éternel ton Dieu toute ta vie, tu vas prospérer dans le chemin que Dieu t'ouvre. Voilà ce que dit la foi, n'est-ce pas? Donc si vous voulez avoir du succès et de la réussite, vous devez avoir la foi de Dieu. Amen. Parce que vous avancerez toujours en fonction de l'image intérieure qui est en vous. Si l'image intérieure qui est en vous, elle est négative, vous allez avancer dans les choses négatives. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ils prient, mais à l'intérieur d'eux, ils sont tellement convaincus qu'ils vont échouer et jamais réussir et que ça ne va jamais leur arriver et que c'est toujours pour les autres, qu'ils n'arrivent jamais à avoir ce qu'ils doivent avoir pour eux-mêmes. Parce qu'ils sont à l'intérieur d'eux convaincus du contraire. Vous pouvez prier une chose et être convaincu de l'inverse à l'intérieur. Et, mes amis, il faut harmoniser les voix à l'intérieur de vous. Hein. Vous comprenez? L'image, l'impression qu'il y a à l'intérieur de vous, ça doit être la même chose que ce que vous priez et ce que vous déclarez. Hein. Amen. C'est pourquoi le message de ce matin, le succès, vient de la structure intérieure. Il doit y avoir une harmonie entre ce que vous voyez à l'intérieur de vous, ce que vous pensez, les choses dans lesquelles vous pouvez vous projeter, et ce que vous croyez, ce que vous priez. Il doit y avoir une harmonie de tout cela. Parce que si vous priez Dieu d'une direction, et qu'à l'intérieur de vous, vous avez une vision interne, négative, parce que vous êtes rempli de toutes les nouvelles du monde, et tout le monde vous a dit, ah bah c'est impossible d'avoir un appartement, ah bah c'est impossible d'avoir ceci, ah bah c'est impossible d'avoir cela, ah bah t'auras jamais ton diplôme, ah bah t'auras jamais ton permis, et puis t'auras jamais ceci, et t'auras jamais un crédit, t'auras jamais... Vous vous remplissez de quoi? Parce que l'image dominante, c'est ce que vous allez avoir. Si l'image dominante à l'intérieur de vous, c'est ce que tout ce que vous entendez du monde qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ce que vous allez produire. Est-ce que vous réalisez que ce que je vous dis, c'est important? C'est important. Alléluia. Dans Job 3, 25, il est écrit « Ce que tu crains ». C'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains. Fais attention. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Job, il craignait quelque chose. Vous savez que Job, il craignait quelque chose? Dans Job 1, on voit qu'il faisait, il y avait ses filles, ses enfants qui se rassemblaient, qui faisaient des fêtes, qui faisaient des festins. Et Job, il craignait qu'il pêche, exactement. Il craignait que ses enfants, que sa postérité, eh bien, pêche contre Dieu et qu'il y ait une malédiction qui vienne. Il craignait que quelque chose arrive. Donc lui, il faisait derrière des sacrifices dans la crainte, pas dans la foi, dans la crainte. Et il a appris quoi, Job? Que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur des choses de ce monde. N'aie pas peur du cancer. Pas peur de la grippe A. Elle est sous nos pieds. Amen. N'aie pas peur du chômage. N'aie pas peur de la conjoncture. N'aie pas peur de ce qui se passe dans le monde. Aie foi en Dieu. Alléluia. Crois dans ton Seigneur. Ton Seigneur est ton pourvoyeur. Il va pourvoir à tes besoins. Amen. Vous savez, Martin Luther, il a dit, j'ai fait un rêve. Martin Luther, il avait un rêve. Il avait un rêve qui l'animait. C'est quoi le rêve qui vous anime? C'est quoi le rêve qui vous anime? C'est quoi le rêve qui vous anime en tant que croyant? Vous devez avoir un rêve. Vous devez rêver les rêves de Dieu. Martin Luther, il a dit, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé qu'un jour, les peuples, les hommes de toutes couleurs s'asseyaient ensemble. Qu'ils étaient égaux en droit. Amen. Il a rêvé son rêve. Oh, il a été combattu son rêve, mais il l'a rêvé. la puissance de son rêve a fait notre société aujourd'hui une société d'égalité, une société de respect mutuel. Amen. Mais à la base, il y a eu un homme qui a rêvé un rêve. Il a eu quelque chose en lui et devant lui qui ont poussé et conduit sa vie. Ça a été le combat de sa vie. Il en est mort pour ce rêve. Mais son rêve s'est accompli. Ce que vous rêvez, c'est ce que vous aurez. Si vous rêvez des choses négatives, si vous pensez des choses négatives, si vous nourrissez des choses négatives, vous allez avoir des choses négatives. Il faut que je vous le dise sous quel langage, dans quel dialecte. Amen. Mais si vous rêvez des choses positives, si vous rêvez les rêves de Dieu, alléluia, si vous rêvez que vous êtes plus que vainqueur, que vous êtes le champion de Dieu, alléluia, que nous allons gagner cette France pour Christ et imposer le sang de Jésus sur cette nation de France et sauver toutes ces âmes perdues, les arracher des mains des ténèbres, les arracher de l'enfer, alléluia. Ça, c'est notre rêve. C'est notre rêve à nous, chrétiens, alléluia. Amen. Nous allons le faire dans le nom de Jésus. Nous devons rêver que les télévisions s'ouvrent. Amen. Nous devons rêver que l'évangile soit prêché sur les télévisions et je suis sûre qu'on n'en est pas loin. Amen. Nous devons rêver d'un corps de Christ uni en France. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut rêver. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham, il a espéré. Il a espéré contre toute espérance. Il n'y avait plus d'espoir pour lui d'avoir un enfant. Il était sec. Mais il a gardé son rêve devant les yeux. Il a gardé son rêve devant les yeux. Il a gardé son rêve devant les yeux. La Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham a engendré un fils. Hey, faut espérer. Hallelujah. Il faut espérer. Lorsqu'on vous dit non, non n'est pas une réponse. Non n'est pas une alternative pour nous. Espérant contre toute espérance. Hallelujah. Non n'est pas une réponse. La seule réponse que nous pouvons accepter, c'est un oui. La seule réponse que nous pouvons accepter, c'est possible. Oui, c'est possible que la France soit sauvée. Oui, c'est possible que je sois guérie de mes maladies. Oui, c'est possible que j'enfante cet enfant. Oui, c'est possible que je sois bénie. Oui, c'est possible que j'ai une maison. Oui, c'est possible que mes enfants grandissent dans la joie et la paix. Oui, hallelujah. La seule réponse que nous acceptons. Hallelujah. Rapidement. Je ne sais pas si je vais vous partager ces 5 points, à moins que je le fasse très rapide. 5 principes pour développer le succès en vous. Premièrement, les gens ne décident pas de leur avenir, mais ils décident des habitudes qui vont déterminer leur avenir. Vous ne pouvez pas déterminer exactement votre avenir à proprement dire, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver sur le chemin. Les gens ne décident pas de leur avenir, mais ils peuvent décider des habitudes qui vont façonner leur avenir. Des habitudes qui vont déterminer leur avenir. Ça, mes amis, j'aimerais vous dire ce que c'est. C'est un message de responsabilité. Ce n'est pas un message, ça, pour les irresponsables. Et je sais que nous, chrétiens, parfois, on aime bien être irresponsables. Mais ça, c'est un message de responsabilité. Ça veut dire que Dieu et moi, on fait la majorité et que ce n'est pas simplement Dieu tout seul qui est aux commandes et qui a la suprématie sur ma vie. Et moi, je suis un pantin articulé par des petites manettes au-dessus de moi. Et tout ce qui m'arrive, eh ben, ça doit m'arriver de Dieu, sûrement. C'est pas ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas la réalité. Ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que moi et Dieu, on fait la majorité. Et que ce n'est pas moi sans Dieu. Et que ce n'est pas Dieu sans moi. C'est moi et Dieu. Alléluia. Donc c'est un message de responsabilité. Les gens ne décident pas de leur avenir, mais ils peuvent décider des habitudes qui vont former leur avenir. C'est plus facile de prier 10 heures par jour sans jamais rien changer dans notre vie. Vous savez que c'est facile de prier? Oh Seigneur, donne-moi ce mari. Seigneur, donne-moi ce mari. Et donne-moi un mariage. Et donne-moi ceci. Et donne-moi cela. Puis vous, vous changez jamais. Dieu peut vous donner si vous changez. C'est plus difficile de changer et c'est plus facile de demander. C'est plus facile de rester assis, de rester passif et de dire « Seigneur, donne-moi un travail ». Bon, quand est-ce que tu te lèves tôt le matin? Quand est-ce que tu es la meilleure personne pour ton employeur? Qu'est-ce que tu préfères? Rester assis? Tu peux rester assis longtemps sur ta chaise et demander si tu fais rien. C'est pas ça la réussite. C'est pas ça le succès. Vous avez besoin de mettre de vous-même dans votre réussite. Et Dieu va mettre, comme mon mari dit, vous faites ce que vous pouvez et Dieu va faire ce que vous ne pouvez pas. C'est lui. Lui, il va ouvrir la porte surnaturelle. Oui, mais vous, vous avez fait ce que vous pouvez. Il y a un dicton qui dit comme cela, aide-toi et le ciel t'aidera. Hé, c'est pas juste ça? Aide-toi et le ciel t'aidera. Amen. Alléluia. Donc c'est un message de responsabilité. Deuxièmement. Donc premièrement, les gens ne décident pas de leur avenir à proprement dit, mais ils décident des habitudes qui vont déterminer leur avenir. Deuxièmement, vous êtes la somme, vous êtes le produit de ce que vous faites quotidiennement. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous êtes, si vous n'êtes pas content de ce que vous êtes, changez quelque chose dans ce que vous faites. Parce que ce que vous êtes, c'est le produit et donc la somme de ce que vous faites. Ce que vous faites quotidiennement, c'est ce que vous êtes. Ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. L'homme est le reflet de ses pensées. Amen. Donc vous êtes la somme et le produit de ce que vous faites. Et aussi de ce que vous pensez. Donc si vous voulez changer, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez être mieux, n'accusez pas les autres. N'accusez pas votre père, votre mère. N'accusez pas votre mari, votre femme. N'accusez pas les gens autour de vous. Changez quelque chose en vous. Amen. Parce que ce que vous êtes, c'est le produit de ce que vous faites et de ce que vous pensez. Troisièmement, votre vie ne changera jamais à moins que vous ne changiez quelque chose que vous faites quotidiennement. Vous voulez que je le répète cela? Votre vie ne changera jamais à moins que vous ne changiez quelque chose que vous faites quotidiennement. Vous savez, notre vie, elle est faite d'habitudes. Si vous voulez changer dans votre vie, il va falloir changer certaines de vos habitudes. C'est pas vrai, ça? Si vous voulez plus de Dieu, il va falloir changer des choses dans vos habitudes, de sorte que vous donniez plus de place à Dieu. Si vous voulez plus de la présence de Dieu dans votre vie, si vous voulez plus de l'onction de Dieu dans votre vie, vous n'avez pas besoin de plus de télévision, vous avez besoin de plus de Dieu. Vous avez besoin donc de faire plus de place pour Dieu. Si vous avez besoin que votre mariage soit plus uni, vous avez besoin de faire de la place pour que votre mariage, il ait le temps de s'épanouir et que vous ayez du temps entre mari et femme, l'un pour l'autre, pour donner de l'épanouissement à votre relation. Mais si vous ne changez rien, tout sera toujours pareil. Ou tout sera plus tard moins bien. Vous êtes là avec... Vous êtes là ou vous êtes en grande méditation? Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train d'imaginer votre mariage. Vous êtes en train de penser à ce qui se passe à la maison. Je crois que le changement, c'est une bonne chose. Je crois dans le changement. Je veux le changement. J'aime le changement. Le changement, c'est une bonne chose. Évidemment, le changement pour ce qui est meilleur. OK, mais rien ne changera. Vous savez, il y a des gens, ils sont attachés à tout. Vous allez chez eux, ils gardent tout qu'ils ont depuis leur enfance. Ils ont encore leurs poupées sur leur lit, là. Et ils ont encore tous les bibelots de leur enfance. Vous pouvez pas vivre comme ça. Il y a des choses dans la vie, il faut les abandonner pour aller plus haut, pour aller plus loin. Il y a des gens, vous allez chez eux, ils ont des choses qui ne leur servent à rien. Et ça monte jusqu'au plafond. C'est-à-dire, ils ont même des étagères et au-dessus des étagères, il y en a encore. Et dans ces choses-là, qu'il y a dans leur maison, c'est que des choses qu'ils n'utilisent plus, qui ont 20 ans, peut-être même des robes dans lesquelles ils ne peuvent plus rentrer, des costumes qui ne peuvent même plus espérer pour en remettre, mais les gardent. Et ça, je vais vous dire ce que c'est ça. Vous voulez que je vous dise ce que c'est ça? C'est un principe d'échec. Vous savez que c'est un principe d'échec? Vous avez besoin de vider. Vider pour faire de la place pour de nouvelles choses. Vous savez quoi? Le principe d'échec, la pensée d'échec, elle est attachée au passé. Elle est attachée à certaines choses. Tout ce qui est de la réussite est toujours porté vers l'avenir. Tout ce qui est vers l'échec est toujours porté vers le passé. Vous ne pouvez jamais rencontrer un homme d'affaires qui a du succès, qui vous raconte comment ça se passait dans les années 20, dans les années 30, dans les années 50, dans les années 80. Non, il va vous parler ce qui va se passer dans les années 2050. C'est un principe de réussite. Le principe de la réussite, c'est d'être porté toujours vers l'avant. Paul disait, je me porte en avant. Je cours afin de remporter. Vous comprenez? Si vous voulez réussir, il faut penser en avant. Arrêtez d'être accroché à tous ces vieux trucs et ces vieux machins. Il y a un esprit de pauvreté là-dedans. Débarrassez vos placards. Mettez tout à la poubelle. Allez donner tout à Simone. Simone le donne à des associations qui recyclent, etc., qui aident et qui bénissent les gens. Mais vous, débarrassez vos placards de tout le bazar. Je vais venir dans vos maisons. Je vais venir vous rendre visite et je vais voir si vous appliquez les principes. Quand vous videz, après ce sont plein de belles et bonnes choses qui vont rentrer. C'est un principe de réussite. C'est un principe de réussite. Le contraire, c'est un principe d'échec. Ça va pour vous? Ok. Eh oui. Moi, je sais hein, que si je vais certains chez vous, il y a des cartons qui sont empilés jusqu'en haut. La vieille vaisselle, la vaisselle dépareillée. Vous gardez tout. Quand la vaisselle est dépareillée, vous savez ce que vous faites? Poubelle. Poubelle. Nouvelle vaisselle. Vous comprenez? Ça, c'est bien. Poubelle. Lorsque les chaussettes sont dépareillées, poubelle. Arrêtez de vivre dans la médiocrité. Arrêtez de vivre dans la médiocrité. Je préfère avoir rien et une chose qui soit bien que 50 choses dépareillées. Tout à la poubelle. Dehors. Vous entrez dans la cuisine de quelqu'un et vous venez manger, il vous sort l'assiette verte à carreaux, l'assiette jaune avec des fleurs et l'assiette transparente Arcopal. Esprit de pauvreté, hein. Qu'il vous lâche au nom de Jésus. Esprit d'échec, qu'il vous lâche. Tout à la poubelle. Videz vos placards. Réussite. Principe de réussite. Ayez que de l'excellence chez vous, même si c'est une chose qu'elle soit excellente, plutôt que 50 choses qui sortent du bazar du coin. Brrr. Qui en veut ça? Et n'allez pas m'acheter des trucs du bazar du coin, hein. Si vous m'achetez quelque chose, m'achetez quelque chose de qualité. Ne m'achetez pas quelque chose dans l'avenue de la Flandre, là-bas. Vers la porte de je sais pas quoi, là, où il y a tous les bazars. Non. Si vous voulez m'offrir quelque chose, vous m'offrirez quelque chose de qualité. Chez moi, je garde que ce qui est de la qualité. Ce qui n'est pas de la qualité, dehors. Dehors. Ok. Votre vie ne changera jamais. À moins que vous ne changiez quelque chose que vous faites quotidiennement. Amen. Ok, je ne vais pas rentrer dans les versets, mais je vais terminer maintenant. Quatrièmement, vous pouvez retracer le succès ou l'échec de quelqu'un à partir de ce qu'il a permis qui se passe dans sa vie quotidiennement. Votre quotidien est très important. Votre quotidien est très important. Votre quotidien, il parle de vous. Votre quotidien, à la fin, ce sera votre produit, ce que vous êtes. Vous êtes le produit de votre quotidien. Vous êtes le produit de ce que vous choisissez de faire ou de ne pas faire, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc, vous pouvez retracer le succès d'une personne à partir de ce qu'il a permis qui entre dans sa vie, au niveau de son quotidien. Et vous pouvez retracer l'échec d'une personne à partir du même principe, à partir de ce qu'il a permis qu'il entre dans sa vie, dans son quotidien. Hey, ça demande de la vigilance, la vie, hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple? Imaginez quelqu'un qui est marié et qui laisse entrer dans sa vie, dans sa pensée, quotidiennement, des pensées pour quelqu'un d'autre. Que Jésus a dit que même si tu n'as pas commis l'adultère avec cette femme, mais que tu as pensé à l'intérieur de toi, tu as déjà commis l'adultère. Okay? Voilà une chose, une porte. Vous laissez entrer quelque chose. Cette porte va produire quelque chose et demain, ton foyer sera détruit. Tes enfants seront blessés. Voilà, c'est une chose que tu laisses entrer au quotidien. Ça peut être une pensée que vous laissez entrer au quotidien, une pensée que vous nourrissez. Les pensées produisent, n'est-ce pas? Les pensées produisent des actions, n'est-ce pas? Donc, on peut retracer l'échec d'une personne à propos de ce qu'elle a fait entrer dans son quotidien. De la même façon, on peut retracer le succès de quelqu'un à propos de ce qu'il a fait entrer dans son quotidien. Si vous commencez à parler la parole de Dieu tous les jours, dans votre quotidien. Vous allez voir la différence. Si vous commencez à vous adresser à la montagne qui est devant vous et que vous avez besoin de faire bouger et qu'elle a l'air d'être bien posée là dans votre vie, cette grosse montagne, et vous commencez à l'attaquer par la parole de Dieu, vous allez voir ce qui va se passer au bout d'un certain temps. Alléluia. Cinquièmement, je termine. Vos habitudes vont produire soit l'augmentation, soit la diminution. Ce que vous faites quotidiennement, vos habitudes dans votre vie, ce que vous choisissez. Vous savez, nous sommes le produit de nos habitudes et les habitudes que nous avons dans notre vie, ce sont nos choix au quotidien. C'est ce que je choisis d'être, c'est ce que je choisis de faire. Je ne suis pas victime de mon quotidien. Mon quotidien, c'est moi qui le fais. C'est moi qui décide à quelle heure je me lève, c'est moi qui décide à quelle heure je me couche, c'est moi qui décide si je lis ma Bible ou si je ne lis pas ma Bible, c'est moi qui décide si je prie ou si je ne prie pas, c'est moi qui décide si je range ou si je ne range pas, c'est moi qui décide si je nettoie, c'est moi qui décide. Vous savez, nous ne sommes pas des victimes. Vous n'êtes pas victime de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes le produit de ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous êtes, c'est le produit de ce que vous avez choisi. N'est-ce pas? Maintenant, si vous n'êtes pas content de ce que vous êtes, vous pouvez le changer. C'est ça la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas content, vous avez le pouvoir de le changer. Parce que vos habitudes, et c'est mon dernier point, le cinquième point, vos habitudes vont produire deux choses. Soit elles vont produire l'augmentation, soit elles vont produire la diminution. C'est vous qui choisissez. Les habitudes qui amènent la diminution dans votre vie, vous vous en débarrassez. Les habitudes qui produisent l'augmentation, vous les gardez. Alléluia. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. C'est pas merveilleux ça? Ok, donc qu'est-ce que je vous ai partagé? Je vous ai partagé trois lois qui orientent votre vie dans le succès. Vous avez pris des notes? Ok, la première loi c'est... Là où fixent vos yeux, c'est là où vous allez où vous irez. Ok? Deuxième loi... Ne regarde qu'à ce que tu veux pour ta vie et ton avenir. Ok, ça parle de mettre nos priorités en ordre. La troisième loi, vous avancerez toujours en direction de l'image dominante dans votre pensée ou dans votre cœur. Amen. Est-ce que ça a du sens pour vous? Amen. Je vous assure que ce sont vraiment des principes riches et de bénédictions pour votre vie qui peuvent changer, vraiment vous amener dans la réussite et dans le succès. Les cinq principes pour développer le succès. 1. Les gens ne décident pas de leur avenir. Ils peuvent décider des habitudes qui vont déterminer leur avenir. Deuxièmement, vous êtes la somme de ce que vous faites quotidiennement. Troisièmement, votre vie ne changera jamais à moins que vous ne changiez quelque chose que vous faites quotidiennement. Amen. Quatrièmement, vous pouvez retracer le succès de quelqu'un à partir de ce qu'il a permis qu'il se passe dans sa vie quotidiennement, le succès ou l'échec. Et cinquièmement, vos habitudes vont produire soit l'augmentation, soit la diminution. Donc choisissez bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Remercions Dieu pour sa parole. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu vous amènera toujours dans le succès. C'est pourquoi il est dit que la sagesse dans les proverbes, avec la sagesse sont la richesse et le succès. Amen. C'est ce qui est dit dans les proverbes à propos de la sagesse. Avec la sagesse de Dieu, vous allez avoir la richesse, vous allez avoir le succès. Vous avez toutes les qualités dont vous avez besoin pour prospérer, toutes les caractéristiques dont vous avez besoin. Amen. Alléluia. Prions cet après-midi et remercions Dieu. Alléluia. S'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, c'est le bon moment pour elles d'être sauvées. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas l'assurance d'être sauvé? Si vous dites, moi je ne sais pas si je meurs ce soir, si je meurs demain, je ne sais pas si je vais aller au ciel, je ne sais pas si je serai sauvé. Si c'est votre cas, alors vous avez besoin de faire la paix avec Dieu. Vous avez besoin que Jésus entre dans votre cœur et dans votre vie et qu'il soit votre Seigneur. Amen. Et donc, si c'est vous, j'aimerais que vous répétiez cette prière et que tout le monde répète cette prière. C'est un moment extrêmement important. C'est le moment du salut. Là où vous êtes, faites cette déclaration de foi. Déclarez, Père céleste, dans le nom de Jésus, je viens à toi ce soir. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma vie. Entre dans ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen.